Vous écoutez RTL.
RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmont.
Bonjour Rémi.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin Rémi, vous nous parlez déjà de la guerre des palaces parisiens. Le 5 juillet prochain, le fameux hôtel de Crillon va rouvrir. Après 4 ans de travaux, il va devoir se battre sur un marché désormais extrêmement concurrentiel.
Oui, le Crillon, une des plus belles adresses parisiennes avec vue sur l'obélisque de la Concorde, le Ritz, ou bien le Plaza, ou bien le Bristol. Si vous voulez séjourner à Paris, vous avez désormais le choix entre une quinzaine d'hôtels ultra-luxe. Paris détient le record mondial du nombre de palaces où les chambres atteignent 1000 euros minimum. Même à New York ou à Londres, il y a moins de choix. Il y a une petite dizaine d'années, Paris avait des palaces un peu fatiguées. Il n'y avait pas de piscine au Crillon. What ? Vous imaginez un peu le scandale ? Eh bien, 2 étages de sous-sol ont été creusés. Désormais, il y a un bassin de 14 mètres. Vous pourrez donc aller faire des longueurs sous la place de la Concorde. L'hôtel de Crillon clôt le bal des rénovations de grande ampleur des palaces parisiens entamées en 2010. Il reste plus que le Lutetia l'année prochaine et l'ensemble du parc aura fait sa mue et sera agrandi avec des nouvelles grandes adresses, le Peninsula, le Shangri-La ou le Mandarin Oriental. En 2010 et aujourd'hui, entre 2010 et aujourd'hui, on est passé de 1050 chambres grand standing à 1800. Ça fait plus 60% d'offres, 700 chambres de plus à remplir.
Mais du coup, est-ce que ces palaces refaits à neuf peuvent être rentables ?
Alors, pour être rentable, un palace doit atteindre un taux de remplissage moyen de 67%. Actuellement, on est à 50%, aux alentours de 50%, après les attentats et avec plus de chambres. Est-ce qu'il y a trop de palaces à Paris ? J'ai posé la question à l'une des meilleures spécialistes de l'hôtellerie à Paris, Gwendola Donnet, du cabinet de conseil JLL.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a trop. Il y en a assez, il n'y en a pas trop, parce qu'il faut se projeter à 5 ans. Il semble quand même que cette menace terroriste, c'est triste et peut-être un peu cynique, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus en sécurité d'aller dans un palace à Londres ou à Paris ? On est en train de s'installer dans une nouvelle normalité. Et en 2018, si on n'a pas un autre choc massif, je pense que les clients seront revenus et que progressivement, on va absorber cette offre. Parce qu'il faut absorber ces plus 60%, ces 700 chambres. Donc non, trop aujourd'hui, momentanément, oui. À long terme, non. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop de nouveaux arrivés parce que certains pourraient être amenés dans ce cas-là à décrocher.
Les milliardaires propriétaires de ces palaces, tous étrangers, sultans d'Émirats, égyptiens, hongkongais, malaisiens, ont les reins solides, même s'ils ont beaucoup dépensé. J'ai fait le calcul pour le Crillon avec ses 125 chambres. Le prince saoudien propriétaire a investi 1 600 000 euros de travaux par chambre.
Alors du coup, la question reste, peut-on compter sur beaucoup de clients pour rentabiliser ces palaces ?
Alors sur quels clients ? D'abord les Américains, ils représentent 40% de la clientèle. Les monarchies du pétrole, c'est 10%, mais il n'y a plus de réserve sur cette clientèle. Pour les pays pétroliers, il n'y a que l'Iran qui pourrait fournir de nouveaux clients fortunés dans les années qui viennent. Il y a les Brésiliens, on parle peu d'eux, mais maintenant c'est 6% des revenus de ces palaces. À vrai dire, pour remplir les palaces, on compte surtout sur les Chinois. On est à seulement 10% de clientèle asiatique. Pour l'instant, un touriste millionnaire chinois à Paris achète des sacs Vuitton. Il ramène des produits et pas de souvenirs dans la suite Coco Chanel du Ritz. Mais ça va venir, disent les professionnels de l'ultra-luxe qui sont optimistes quand ils observent ce qu'ils appellent, j'adore, la courbe d'apprentissage du luxe.
Rémi Sulmont, puisqu'RTL vous en parle déjà tous les matins.